Milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Amélie Beaucourt.
Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans 7 milliards de voisins. Une émission consacrée aujourd'hui à la protection de la biodiversité. Plus de 37 000 espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées d'extinction selon la liste rouge dressée par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Elle tenait son congrès du 3 au 11 septembre dernier à Marseille pour prendre les décisions qui influenceront, on l'espère, la politique de demain. S'il est plus urgent que jamais de protéger les ressources naturelles, quelles alternatives proposer aux populations qui vivent grâce à leurs exploitations? Comment reconvertir par exemple un village qui vivait de la chasse si la pratique vient à être interdite? Autrement dit, comment concilier préservation de la biodiversité sans nuire aux populations qui en dépendent économiquement? Nous en parlerons avec nos invités Maude Lelièvre, présidente du comité français de l'UICN, Alexis Caboret, président de l'association Natudev au Burkina Faso et Epanda Aimé, président de l'ONG Tropical Forest au Cameroun. Vous pouvez bien sûr nous appeler les voisins et les voisines si vous faites partie de projets qui allient préservation de l'environnement et développement de l'activité économique ou si vous êtes confronté à ces problématiques. Le numéro WhatsApp, c'est le 337 64 45 51 41.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins. Hein?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Bonjour Maude Lelièvre.
Bonjour.
Alors vous êtes présidente du comité français de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Vous avez donc participé au congrès qui s'est tenu du 3 au 11 septembre à Marseille, un congrès assez sportif, me disiez-vous. L'UICN, c'est un gros poisson de la lutte pour la préservation de la biodiversité. Est-ce que vous pourriez déjà nous raconter dans les grandes lignes l'origine de cette UICN et le rôle du comité français dans tout ça ?
Bien sûr, donc le comité français est le deuxième plus grand comité au monde de l'UICN et c'est sans doute pas totalement de façon par hasard puisque l'UICN a été créé en France il y a 73 ans à Fontainebleau, à peu près au même moment où les grandes organisations internationales ont été créées. Il a été décidé de créer cette organisation mixte entre État et ONG pour préserver au mieux la nature avec justement cette double origine, État et associations de terrain, associations locales, scientifiques, pour donner les meilleures garanties de préservation.
Et combien de membres est-ce que vous avez environ ?
Alors en France, nous avons 62 grandes organisations et puis au plan mondial, 1387 organisations, sachant que chacune d'elles sont soit des très grandes ONG, soit des fondations. Ce sont des gens qui pèsent dans leur pays et au plan international.
Alors l'objectif de ce congrès était d'élaborer des recommandations mondiales concrètes pour définir les prochains objectifs de la protection de la biodiversité à l'horizon 2030. Alors on ne va pas revenir sur toutes les décisions, mais lesquelles sont à votre avis les plus fortes, les plus concrètes peut-être ? Qu'est pris l'UICN cette semaine, puisque vous avez participé nuit et jour, me disiez-vous, aux négociations.
Ce sont effectivement c'est un travail de longue haleine. Ça fait 2 ans et demi que le comité français, comme les membres à travers le monde, prépare ces résolutions, ces motions, qui ne sont pas des déclarations de principe, mais la conjonction entre un état des lieux scientifique, l'état des lieux en matière de politique publique, et puis la nécessité de mettre en place de façon assez rapide des décisions concrètes. C'est ça l'UICN, ce ne sont pas des grandes déclarations. Donc 137 ont été adoptées. On en a eu de nombreuses qui concernent directement la France, 18 qui ont été portées par les membres français. Mais j'aimerais peut-être en rappeler au plan international, dont une qui a ému toute l'Assemblée, qui est celle de la protection de l'Amazonie. 80% de protection de l'Amazonie avant 2030, votée à l'unanimité et par les États et par les organisations présentes. C'était un moment assez fort avec la participation des peuples autochtones. Et puis d'autres concernent différents territoires à travers le monde. L'Okavango, par exemple, au Botswana, une résolution qui a été prise contre l'exploitation de gaz, ou une autre motion qui concerne le barrage du Grand Inga en RDC sur le fleuve Congo contre des projets d'hydroélectricité. Donc des décisions concrètes qui, demain, auront des résultats concrets.
Alors le congrès devait se tenir, je crois, l'année dernière, mais a été annulé à cause de la pandémie. Est-ce que vous avez senti cette semaine, dans les négociations, que la perception de la biodiversité, de la protection de la biodiversité était un peu différente du fait de la pandémie ?
Un indicateur est celui de la participation. La France a fait le choix d'accueillir un congrès hybride. Il y avait quand même 5000 experts du monde entier présents sur place, l'équivalent à distance. Et jamais un congrès de l'UICN n'a été autant fréquenté par des experts de haut niveau. Donc c'est quand même un indicateur, celui de l'urgence et de la nécessité de trouver des solutions rapides. Pour nous, c'est le meilleur indicateur.
7 milliards de voisins.
Ouais, 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Oui, Zolo. Soyez les bienvenus.
RFI, Cotonou, hein? 90 FM.
Alors avant de poursuivre notre discussion autour de la préservation de la biodiversité et du développement économique des populations qui en dépendent, nous allons partir quelques instants dans la réserve naturelle communautaire de la vallée de Sitatunga au Bénin. Située à une trentaine de kilomètres de Cotonou, elle s'étend sur près de 67 000 hectares. Notre reporter Raphaël Constant a embarqué en pirogue sur la rivière Sau avec Joseph Dossou et Saturnin Amoussou, membres de CREDI-ONG. Cette organisation a créé l'aire protégée du Sitatunga en 2005, dans l'idée de s'associer avec la population locale pour trouver des solutions durables. Reportage au cœur de ce bijou de biodiversité entre forêts, marécages, champs de tourterelles maillées et tisserins gendarmes.
Là, quand vous regardez sur le bout de bambou, là, nous avons le martin pêcheur.
Il est bleu turquoise, il est magnifique.
Oui, avec un bec aussi long, qui est un piscivore. Ils sont en train de survoler la rivière pour pouvoir vraiment identifier les petits poissons et plonger pour pouvoir rapidement se nourrir.
On les voit passer au-dessus de nos têtes, ils passent d'une rive à l'autre.
Donc la présence de cette diversité d'oiseaux piscivores dans cette zone montre qu'il y a quand même assez de poissons. Donc ils savent en fait que venir ici, c'est une bonne occasion pour pouvoir mieux se nourrir.
Il faut dire que la présence des oiseaux constitue aussi des indicateurs pour observer en réalité comment est-ce que la nature se porte en réalité.
Et justement, en quoi cette zone elle est sous tension, elle est en danger aujourd'hui?
Les gens, en cherchant à cultiver de plus en plus de superficie, détruisent la végétation naturelle et installent leurs champs. Mais ils n'ont pas d'idée de retour en quelque sorte où il fallait remettre encore en place une autre plantation pour régénérer en quelque sorte le sol. Donc c'est en partie le danger qui guette la disparition de la végétation. Mais de l'autre côté, ce danger-là est déjà visible et permanent. Les ressources halieutiques sont devenues totalement maigres. Il faut dire les poissons qui sont retrouvés dans la rivière, les grosses espèces que sont Clarias gariepenus et Hétérotis, aujourd'hui sont de moins en moins retrouvés. Un seul poisson pourrait avoir jusqu'à 4-5 kilos.
Donc c'est des poissons qui se vendent cher et qui nourrissent beaucoup de monde dans une famille.
Oui.
Et donc c'est là que vous intervenez, vous, Saturnin, auprès de ces populations qui vivent au bord de cette rivière. Comment vous faites ce travail?
Nous essayons de leur montrer à quelle taille faut-il pêcher les poissons? Tu pêches un poisson qui n'est pas encore de taille consommable, qu'il faut le relâcher afin de permettre à ce poisson-là d'atteindre l'âge adulte, de se reproduire et de donner beaucoup d'autres poissons. Sans quoi, on remarque que ces poissons-là disparaissent.
Mais est-ce que ça marche? Est-ce que les populations sont sensibles à ces questions-là ou est-ce qu'en fait l'urgence pour eux, c'est de nourrir leur famille aujourd'hui et pas forcément de penser à demain?
Pour le moment, étant donné que nous ne couvrons qu'une partie de la zone, ceux qui sont en amont continuent toujours d'utiliser les filets prohibés et même parfois des produits chimiques qui versent dans l'eau, qui permettent de tuer les poissons et de les retrouver à la surface de l'eau. Donc, il y a les forestiers qui sont associés à ce travail que nous faisons et qui, en réalité, par la force, arrivent à dissuader ces populations. Mais il faut dire que l'effectif de ceux-là également est encore réduit pour le moment et l'action peine à prendre suffisamment.
Joseph, on se rapproche d'une pirogue de pêcheurs. Trois hommes qui sont autour d'un acadia, donc un dispositif traditionnel de pêche. Et en fait, les filets sont hissés très haut autour de grandes tiges de bambou.
Et là, le filet est vraiment remonté pour empêcher les poissons de s'échapper.
Bonjour monsieur, vous vous appelez comment ?
Je m'appelle Dansou Benjamin.
Vous savez à peu près combien de poissons vous avez attrapés ?
On ne peut pas estimer exactement le nombre de poissons qu'on a attrapés car on laisse le filet dans l'eau pendant 3 mois. On va vendre une partie et en garder pour notre propre consommation.
Est-ce que vous avez remarqué moins de poissons ?
Ça fait au moins 30 ans qu'on a remarqué une diminution progressive des poissons. Quand j'allais pêcher avec mon père, on ramassait plus de poissons. Il y a quelques années, avec ce type de dispositif de pêche, on gagnait jusqu'à 40 000, 50 000 francs CFA parce qu'il y avait assez de poissons et on trouvait des espèces différentes. Par exemple, l'hétérotis, le silure, le parachana, le tilapia. Mais aujourd'hui, on remarque une baisse drastique de ces espèces, ce qui fait qu'on gagne désormais entre 5 000 et 10 000 francs CFA.
10 000 francs CFA, ça fait à peu près 15 euros. Donc ça représente une grosse perte de revenus pour vous, l'épuisement de ces ressources en poissons.
Bien sûr, c'est à défaut de mieux qu'on continue cette activité. Nous sommes 3 pêcheurs, comme vous le constatez, et on partage les recettes. Ça fait environ 3 000 francs CFA par personne pour un travail de 3 mois. Donc aujourd'hui, on fournit les mêmes efforts qu'auparavant, mais on gagne peu et ça ne nous permet pas de vivre.
Oui, vous voyez, 3 000 francs, ça fait 4,50 euros pour un travail de 3 mois. C'est ridicule. Et on ne peut pas laisser la pêche, comme c'est aussi notre culture, la pêche étant une activité du père au fils, parce que nous sommes dans une zone semi-lacustre. Donc et on fait ça aussi pour pouvoir apprendre cette activité à nos enfants, pour qu'eux aussi ne perdent pas la main pour la disparition de cette culture que nous avons héritée de nos grands-parents.
Mais alors comment vous faites pour vous adapter s'il y a moins de poissons, moins de ressources disponibles et donc moins d'activités économiques pour vous ?
C'est une situation difficile. On s'adapte, on complète nos revenus avec les activités agricoles pour subvenir aux besoins quotidiens. On cultive du maïs, des légumes feuilles, du piment, de la patate douce, des cultures diversifiées. J'avoue que c'est difficile pour nous.
Est-ce que le fait d'être dans cette réserve naturelle fait qu'il y a des choses qui sont mises en place pour protéger justement les ressources ? Est-ce que vous avez entendu parler de certaines solutions ?
Oui, l'association villageoise des chasseurs et Crédit ONG veulent creuser des étangs pour développer la pisciculture, l'élevage des poissons. Mais je ne suis pas dans l'association, alors je ne suis pas très bien informé.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette solution ?
C'est une bonne idée, mais j'aimerais que cette initiative soit accessible aussi aux personnes qui ne sont pas membres de l'association. Ce serait un grand soulagement pour nous.
Merci beaucoup, je vous laisse finir de travailler.
Au revoir.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Un reportage de Raphaël Constant qui sera à retrouver en version longue dans une prochaine émission de 7 milliards de voisins. Maud Lelièvre, cette ONG, CREDI, Centre Régional de Recherche et d'Éducation pour un Développement Intégré, fait partie du PPI, le Programme des Petites Initiatives, qui a été lancé par l'UICN. De quoi s'agit-il au juste ?
Le programme Petite Initiative a été lancé donc par le comité français il y a 15 ans. L'objectif était de soutenir des projets de terrain. Le bilan, après 15 ans, c'est 250 projets en coopération avec 190 associations locales dans 33 pays, majoritairement en Afrique. Donc c'est un exemple réussi avec, par exemple, 500 000 hectares d'aires protégées qui ont été créés et un grand nombre de conversions dans le domaine agricole, en appui sur les associations de femmes, les associations villageoises. Et si on est sur un plan même plus économique, sur la filière économique, c'est 120 projets qui ont permis de créer 25 filières durables sur le karité ou sur l'élevage. Donc ce sont des projets concrets et on est assez heureux, puisqu'au moment du congrès mondial, nous avons signé la 6e phase avec le FFEM et puis le ministère de l'écologie, l'UICN international, et nous continuerons les prochaines années à les déployer dans les différents pays.
Et comment on fait pour en bénéficier alors ?
Il y a un appel à projet avec un accompagnement très fort des personnes qui travaillent au sein du comité français, qui sont des experts de l'Afrique. Ils vont, hors période de Covid évidemment, 3-4 fois chacun par an, aider les associations à mettre en place les projets, obtenir des fonds complémentaires et puis les aider dans le suivi.
Et ces fonds, ils proviennent majoritairement de...
Alors, du FFEM et puis après, ensuite des fonds qui peuvent être complémentaires. Vous savez, en matière d'investissement public, lorsqu'on obtient un peu d'argent dans un programme, on arrive plus facilement à obtenir soit des prêts internationaux, soit des fonds complémentaires. Donc, c'est un effet boule de neige.
Et nous sommes en ligne avec un second invité au Burkina Faso cette fois. C'est Alexis Caboret. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Vous êtes le président de l'association NatuDev, Nature et Développement, fondée en 2014. Une association qui tisse, ou plutôt retisse, les liens entre la conservation de la nature et le développement local, et qui est née d'un constat: les aires protégées provoquent des conflits d'intérêts avec les habitants. Alexis Caboret, de quel conflit est-ce qu'on parle au juste ?
Il s'agit surtout des conflits hommes-faune, parce que nous sommes dans un contexte d'aire de faune. Nous sommes dans le complexe Fonassi au Burkina Faso, qui est le deuxième plus important complexe d'aire de faune. Alors, il y a beaucoup de populations d'éléphants, et pour ce qui est du Fonassi. Et souvent, les éléphants, ils débordent, en fait, ils sortent effectivement de des aires protégées, ils rentrent dans les exploitations agricoles. Il y a même parfois des accidents avec des populations, avec des situations graves comme des morts d'hommes. Donc, en fait, c'est ce genre de conflit. Destruction des cultures et accidents sur les populations.
Comment est-ce qu'on fait alors pour trouver des solutions, pour faire en sorte que les relations entre les éléphants et les populations qui cultivent ou qui passent sur le corridor écologique emprunté par les éléphants se passent le mieux possible pour regarder chacun en évitant les confrontations?
Et voilà, donc... notre option est de faire en sorte qu'on puisse intégrer la conservation des aires protégées, la biodiversité et l'amélioration des conditions économiques des populations. Et nous avons misé sur l'apiculture améliorée, de sorte qu'il y a un corridor écologique qu'on appelle couloir des éléphants. Mm-hmm. Il relie deux grands parcs, le parc national Kabore-Tambi et le ranch de Nazenga. Et autour de ce corridor, il y a les villages et les populations qui ont l'apiculture améliorée. Et avec l'apiculture, c'est des ressources alternatives à des activités en fait, qui aussi attirent les éléphants, comme certaines productions agricoles au bord des aires protégées. Et aussi comme solution avec l'apiculture, parce que les éléphants, on peut faire au bord des aires protégées ce qu'on appelle des chaînes de ruche, qui diminue la tendance des éléphants à déborder en fait de ces espaces. Donc nous misons beaucoup sur l'apiculture.
Parce que les éléphants craignent les abeilles.
Voilà, parce que les éléphants craignent les abeilles. Donc quand on fait effectivement une chaîne de ruches et les apiculteurs installent les ruches autour des aires protégées, en particulier ici autour du corridor des éléphants, et il y a de moins en moins vraiment de débordement des éléphants autour. Il faut savoir aussi que les populations ont tendance aussi à rentrer dans les espaces des aires protégées, dans le corridor et dans les aires protégées, et ça augmente les risques de conflit. Donc, avec l'apiculture, les populations n'ont plus besoin vraiment d'entrer dans la réserve pour couper le bois, pour faire la carbonisation même qui était un problème. Mm-hmm. Et tout cela, ça diminue parce que l'apiculture, vraiment, ça fournit des ressources considérables, des revenus très significatif, qui en tout cas les effets sont assez forts depuis, surtout 2017 que nous avons mis l'accent sur cette activité, et les effets sont indéniables.
Alexis Caboret, on va parler justement de ces revenus que génère cette activité, mais d'abord, comment est-ce que vous avez fait avec NatuDev pour convaincre les populations de se lancer dans cette activité-là? Comment se passent les discussions avec les locaux?
Voilà, c'est une bonne question parce que c'est une zone où traditionnellement, il n'y a pas beaucoup l'apiculture, mais il y avait au moins l'apiculture traditionnelle. Donc, dès qu'effectivement, on a fait le point avec les populations sur quelles sont les activités qui peuvent être compatibles et durables, Et voilà, ils ont cité l'apiculture, sauf qu'ils n'avaient pas les compétences, ils n'avaient pas les formations, ils n'avaient pas les équipements, ils n'avaient pas l'accompagnement, ils n'avaient pas le suivi. Et ils n'avaient pas surtout aussi d'appui pour l'écoulement. Donc, en fait, c'est à partir du moment où on leur a dit qu'on peut effectivement donner des formations, appuyer en équipement, en suivi, en conseil, et aussi appuyer pour l'écoulement pour que les revenus soient considérables. Alors, les populations ont adhéré. Et voilà, actuellement, on est à une centaine d'apiculteurs, rien qu'en en 4 années, avec, donc, de façon progressive, avec voilà, plus de, d'une tonne, des tonnes de miel par an, et des revenus qui se situent entre 100 000 et parfois il y a des gens qui arrivent à avoir 1 million de francs CFA, et c'est des revenus exceptionnels, en fait, dans la zone. Donc, rien que le fait que ce soit rentable et que ça soit compatible avec la coexistence avec les aires protégées et que ça conserve les ressources, parce que l'apiculture, ça suppose des ruchers, ça suppose des espaces boisés. Tout cela a été en fait des motifs en fait d'adhésion des populations, et ça ne fait que croître parce que les populations viennent de mettre en place des coopératives apicoles, et on a mis en place aussi un circuit d'écoulement qui accroît la valeur du miel. Le miel est certifié et tracé. Donc, même au niveau urbain, le miel a beaucoup de valeur et apporte beaucoup de revenus. C'est ce qui a motivé la population.
Alexis Caboret, c'est aussi une activité peut-être à risque, puisque on le sait, les abeilles, elles sont extrêmement sensibles à certains engrais chimiques, les néonicotinoïdes par exemple, qui sont utilisés dans l'agriculture. Est-ce que c'est aussi un mal dont souffrent les abeilles du complexe du Ponazi, là où vous travaillez ?
Effectivement, mais actuellement ça va, mais sinon il y a eu une période, surtout en 2018, on a constaté beaucoup de mortalité. Il faut dire que heureusement, contrairement à d'autres zones du Burkina Faso où la production de coton qui amène les pesticides est plus forte, dans cette zone, l'activité cotonnière est faible. Or que c'est surtout avec la production de coton qu'il y a beaucoup de pesticides. Mm-hmm. Donc en 2018, en tout cas, on a constaté des mortalités. Mais depuis lors, on sent beaucoup de diminution en fait de ces mortalités-là. Sinon, effectivement, c'est une préoccupation. Et dans d'autres régions du Burkina, il y a ça. Donc, nous aussi, en fait, on est dans cette peur. De sorte qu'on attend de faire la promotion de ce qu'on appelle l'agroécologie au niveau des champs limitrophes, des aires protégées, et avec agroforesterie, où les gens conservent les arbres, qui augmentent la productivité des champs, parce que les feuilles laissent de l'humus et en même temps aussi, ça donne la végétation pour l'apiculture, et de sorte que le problème n'est pas aussi grave que ça, sinon c'est une menace.
Mais effectivement, ça nécessite donc un accompagnement aussi sur les abords du parc et pour que tout puisse s'imbriquer correctement et que la production de miel puisse fonctionner. Est-ce que vous êtes accompagné aussi sur le plan politique à ce niveau-là ?
Oui, on a accompagné beaucoup... Le plan politique, surtout, on a pu accompagner les coopératives apicoles, mais aussi les groupements féminins. Mais je n'en parle pas parce qu'on a eu voulait beurre de karité, mais comme on parle d'apiculture, à négocier, par exemple, des conventions avec les administrations, que ce soit les collectivités, les communes, que ce soit l'administration publique comme les services forestiers, avoir des conventions claires pour les droits d'exploitation des aires protégées avec l'apiculture autour et avec, pour le beurre de karité, la collecte des noix. Donc, on essaye de négocier pour accroître les droits en fait, des populations. Parce que vous savez que, par exemple, quand il y a un parc national, a priori, les droits des populations sont très limités. Donc, on a réussi, effectivement, à force de concertation avec les différents acteurs, à avoir des droits pour les populations, des droits qui se sont accrus, de sorte que les populations sont de plus en plus en confiance pour investir leurs efforts dans ces activités-là. Donc, en fait, la négociation des droits, c'est l'action politique, effectivement, que nous avons inclus dans l'action.
Merci beaucoup, Alexis Caboret. Merci d'avoir été notre invité.
Bonne journée.
Maud Lelièvre, on l'a entendu, cette initiative de l'association... Natudev, elle fait partie donc du programme PPI dont on parlait tout à l'heure. Et elle a commencé par rapport à une critique des aires protégées. En janvier 2020, je crois, la Convention pour la diversité biologique des Nations Unies proposait de créer Des aires protégées sur au moins 30% des zones terrestres et marines du globe dans la prochaine décennie.
C'est l'objectif, oui.
Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Combien de...
Aujourd'hui, on est évidemment loin de ce chiffre. On est assez favorisé en France puisqu'on a une politique ancienne de conservation territoriale, que ce soit avec le Conservatoire du Littoral, la Fédération des Parcs Naturels Régionaux, les Réserves Naturelles de France, donc un certain nombre d'acteurs. Donc nous, on y sera avant, on y sera dès 2022. Mais vous avez raison, c'est difficile et c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix au Comité français de l'UICN de lancer pendant le Congrès un réseau francophone des aires protégées pour aider un certain nombre de collectivités locales, d'associations à mettre en place des outils de gestion. On appelle ça les listes vertes. Alors, c'en est qu'un des exemples. Les listes vertes, ce sont des sites sauvegardés et protégés. C'est un outil de l'UICN. Mais au-delà d'avoir des préservations territoriales, c'est absolument essentiel. Et ça ne peut pas se faire de façon spontanée sans aide extérieure.
Mais alors, qui est-ce qui décide ce qu'on protège et comment on le fait ?
Avant tout, les populations, en tout cas dans notre esprit, c'est-à-dire qu'il faut avoir la conjonction de deux choses, une analyse scientifique de l'état des lieux et de la biodiversité la plus en danger. On la connaît un peu à travers les listes rouges de l'UICN qui sont établies au plan international et parfois national ou régional selon les pays. Et puis on a des indicateurs pour nous qui sont les ONG locales. Lorsque des ONG souhaitent se rapprocher, même si elles ne sont pas membres de l'UICN, de ces programmes, c'est pour dire on sent que quelque chose ne va pas. On a de l'agriculture intensive qui est parfois et majoritairement produite par des acteurs extérieurs étrangers qui déversent des pesticides. On voit bien que la population de chimpanzés, par exemple, va moins bien, qu'on a aussi une population qui est malade. Donc venez nous en aide, apportez-nous des moyens pour faire de l'infrastructure, pour pouvoir faire de la conversion. Il faut absolument aussi entendre ces initiatives. Moi, ce qui m'a beaucoup émue pendant ce congrès mondial, c'est que j'ai rencontré un certain nombre d'acteurs qui se battent seuls dans leur pays, des associations de femmes, et qui ont dit aidez-nous, on a besoin de vous. Il faut rapprocher ça aussi du fait que on a eu l'année dernière 331 lanceurs d'alerte qui sont des défenseurs de l'environnement qui ont été assassinés parce qu'ils s'opposaient à des mines, parce qu'ils s'opposaient à de la déforestation, parce qu'ils s'opposaient à de l'agriculture industrielle. Et c'est qu'un petit exemple.
On continue notre discussion dans quelques instants avec vous, Maude Lelièvre, autour de la conservation de l'environnement et du développement de l'activité économique des populations qui en dépendent. Pour les auditeurs, évidemment, si vous voulez nous poser vos questions, si vous voulez témoigner, le numéro WhatsApp, c'est le 33 7 64 45 51 41. On vous donnera la parole juste après SOS de l'ancien leader des Black Eyed Peas, c'est Will.i.am sur RFI. Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out. Looking all around and watching the world. People killing, people dying, people lying, people blind. People don't see the sign, watching money all the time. Get the pennies, get the dimes, get the dollars is the mind. State of the human race, people on a paper chase. The environment is fragile, and we've been on the gradual. Declining in a lifetime, or lose the battle. Get burned by volcanoes, get blown by tornadoes. Cause Mother Nature signals, is trying to warn NATO. We got a new terror threat, it's called the weather. More deadlier than chemical and nuclear together. It's hotter in the winter, even hotter in the summer. Jesus or Buddha, somebody come and help us out. Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out. Looking all around in the marginal world. Open up your eyes, you can see things we go ranging. The world is dying. And if they say it's gonna be alright, then people are lying. People trapped behind the gates, ignorance in the state of mind, cause they formulate a plan just to penetrate us. You see, they stimulate us with fear, manipulate us. Each year they dominate, dividing us like calculators. And we can't add it up cause calculators do the math for us. And here they come chopping down the rainforest. Fucking up our air for us, they don't really care for us. And we can't complain because the only one to blame is us. The gas is rising up, but we keep on filling up. CO2 levels got the whole planet heated up. It's blazing in the winter, even hotter in the summer. Muhammad, Jehovah, somebody come and help. Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out. Looks like we ain't gonna figure it out. Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out. Looking all around and I'm watching the world changing. Open up your eyes, you can see things we've arranged. écoutez 7 milliards de voisins sur RFI avec aujourd'hui une émission consacrée à la préservation de la biodiversité, mais aussi à la préservation des ressources économiques des populations qui tirent leurs revenus de la nature. Avec nous en studio, Maude Lelièvre, présidente du comité français de l'UICN qui a tenu son congrès la semaine dernière à Marseille. Un congrès qui s'est tenu, comme on l'a dit tout à l'heure, malgré la pandémie de Covid, après avoir été annulé l'année précédente. Tous les membres n'ont donc pas pu faire le déplacement. Près de la moitié, je crois, sont restés chez eux, puisqu'il fallait avoir reçu un vaccin reconnu en Europe pour pouvoir faire le déplacement si on habite en zone rouge. Sauf que le congrès de l'UICN consiste aussi en un vote, évidemment, après des négociations sur ces recommandations qui ont été donc discutées pendant une semaine, qui valident donc ou invalident ces décisions. Et je crois qu'une motion a été déposée au 1er septembre pour demander s'il était possible de voter en ligne pour les gens qui n'étaient pas sur place. Mais ce mode de scrutin n'a pas été retenu, notamment par la France, selon un article paru dans Le Monde. Pourquoi, Maude Lelièvre, ce mode de scrutin pose problème ?
C'est pas par la France qu'il n'a pas été retenu. Les décisions à l'UICN sont démocratiques. C'est par les membres qui étaient en assemblée. Ça ne fait pas partie des modes d'organisation de l'UICN. L'idée, c'est de vraiment faire en sorte que l'ensemble des participants puissent venir, puissent voter. Malheureusement, cette année, c'était particulier. On a choisi un mode hybride. L'ensemble des membres du monde entier ont participé, puis à distance, dans ce qu'on appelle, nous, des groupes de contact, c'est-à-dire les lieux où se débattent, on débat des résolutions qui sont ensuite proposées au vote. Et quand tout le monde est d'accord dans le groupe, par unanimité, on met ces résolutions au vote. Donc, en fait, chacun des membres a pu participer ou donner des mandats pour la phase finale. Tout ça est un peu technique. Je pense qu'il est nécessaire de s'adapter dans la période actuelle et surtout d'avoir pris les bonnes décisions qui ensuite sur le terrain seront applicables et changeront les choses.
Et la veille de l'ouverture du congrès, Maude Lelièvre, il se tenait d'ailleurs un contre-congrès, entre guillemets, comme l'ont appelé certaines ONG qui participaient à quelque chose qu'on a appelé « Notre terre, notre nature » et qui ont dénoncé la tenue de votre congrès, justement, par rapport à, je cite, « l'invisibilisation des peuples autochtones qui n'ont pas accès à des visas ou à des passeports et qui seraient exclus de ce genre de conférences internationales », comme l'expliquait le porte-parole de l'ONG Survival. Qu'est-ce que vous pensez de ça, ce contre-congrès ?
Je pense que plus les gens sont mobilisés, mieux c'est. En ce qui concerne les peuples autochtones, d'abord, ils avaient toute leur place dans ce congrès. Ils étaient présents. Je vous ai parlé du débat sur l'Amazonie qui a été porté par les peuples autochtones. Au sein de l'UICN, il y a un siège qui est dédié aux peuples autochtones, qui est en dehors de la gouvernance internationale et qui leur permet de siéger et d'être représentés. Et puis, ils étaient présents dans la salle. Après, je pense que c'est bien de rappeler que les populations les plus fragiles, parfois, ont le moins accès aux décisions, mais ce n'est pas le cas à l'UICN.
Alors, on va écouter le message qu'un auditeur nous a laissé sur WhatsApp.
Bonjour, je suis Nodidoua Akcheduk Théodore de N'Djamena au Tchad. Pour moi, pour préserver les écosystèmes et espèces menacées avant qu'il ne soit tard, il faudrait sanctionner tout complice ou auteur menaçant ces genres d'espèces. Et il faut aussi insérer la culture de la protection de l'environnement à tous les concitoyens, puisque ces espèces rares en voie de disparition doivent rester afin que nos enfants, nos petits-enfants puissent voir ce qu'on a vu aussi. Merci.
Est-ce qu'il a justement été question de sanctions, Maude Lelièvre, au congrès de l'UICN ?
C'est pas dans cette façon dont sont pensés les congrès de l'UICN. On essaie d'agir ce sur quoi on peut agir. On est plutôt dans des discussions internationales. Mais par exemple, on a parlé de moratoire. La question du moratoire sur les grands fonds marins avant toute exploitation minière était un des sujets importants. Et c'est une motion qui a été adoptée. On parle aussi d'économie. L'idée de passer d'une économie de la biodiversité à une économie de conservation de la biodiversité. C'est vraiment avoir à l'esprit que certains modes de production économiques ont des incidences directes et nuisent au bien-être des populations. Donc nous, ce qu'on essaie, c'est de renverser la culture générale, renverser le système économique mondial en faisant prendre conscience que la disparition des ressources, c'est demain des migrations de populations, des gens qui ne peuvent plus vivre là où ils habitent et peut-être même une remise en cause du système économique d'un certain nombre de producteurs.
Alors nous allons partir au Cameroun à présent, aux côtés de notre troisième invité, Manfred Aimé Epanda. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes le président de l'ONG Tropical Forest, qui a été créée en 2010 au Cameroun et qui promeut une éducation environnementale dans les établissements scolaires et auprès des populations locales. Mais avant de travailler pour l'association, vous travaillez dans la réserve de biosphère du Dja, au sud du Cameroun, et notamment sur la question des grands singes. Quelles étaient alors les problématiques auxquelles vous étiez confrontés ?
Concernant les grands singes, il faut noter que les grands singes dans cette partie du Cameroun sont non seulement à l'intérieur du parc national, mais aussi à la périphérie. Et les périphéries, n'est-ce pas, sont des concessions forestières, soit des concessions forestières, soit des plantations agro-industrielles. Et les grands singes se retrouvent donc coincés. Il était important de comprendre, n'est-ce pas, ce qui arrive à ces grands singes qui sont dans des zones qui sont dans des zones où il y a peu de protection par les éco-gardes, n'est-ce pas, de la réserve. Et nous étions en train d'étudier la socio-écologie des grands singes et aussi les interactions, n'est-ce pas, avec les communautés qui sont tout autour et de comprendre un peu comment est-ce que ces animaux peuvent aider, n'est-ce pas, au développement des communautés qui sont dans la zone.
Et la réponse, comment est-ce que ces animaux peuvent donc aider ces populations locales ?
Il y a eu, du moins, il faut voir ça dans deux sens. D'un côté, la perception que les communautés ont de ces animaux et puis la perception que les conservationnistes ont de ces animaux qui est très différente. Les communautés considèrent les animaux comme la viande et la conservation, n'est-ce pas, comme une affaire des blancs. Alors, il est important qu'à partir de ce moment, qu'on trouve, n'est-ce pas, des portes d'entrée vers ces communautés afin de trouver des solutions pour conserver ces animaux. Et c'est ainsi qu'il y a eu beaucoup, il y a eu par exemple l'éducation environnementale que nous avons développée, n'est-ce pas, en se basant sur la perception de ces communautés-là pour trouver des portes d'entrée et permettre qu'on puisse améliorer leur perception vis-à-vis des animaux. Et il fallait également regarder leur contexte socio-économique, n'est-ce pas, la production du cacao par exemple. Ce n'est pas nous qui l'avons apporté là-bas, mais en apportant les éléments de certification, en apportant les éléments de gestion durable de leur environnement, on arrive à des solutions, n'est-ce pas, qui sont fondées sur la nature et qui permettent, n'est-ce pas, à cette communauté, n'est-ce pas, de pouvoir avoir de l'argent. Ils sont engagés dans la certification Rainforest Alliance et cela leur permet, n'est-ce pas, dans leur contexte, de gagner plus, tout en protégeant l'environnement.
Comment est-ce que votre démarche a été perçue justement par eux ? Est-ce que ça a été vu d'un œil méfiant peut-être au début, puisque vous remettiez quand même en cause des habitudes qui sont ancrées profondément ?
Oui, effectivement. Ça fait 10 ans que nous travaillons là-bas. Au départ, ils ne comprenaient pas très bien, mais quand on utilise la culture, quand on utilise les éléments de sensibilisation, quand on utilise même l'éducation pour aborder ces questions, on réussit à inverser. Et nous avons pris comme porte d'entrée les écoles, les enfants, pour construire la conservation de demain, et aussi avec les personnes adultes, n'est-ce pas, qui font partie. Nous avons commencé à travailler dans la cacao culture. Il était important d'abord de créer la confiance. Il était important, n'est-ce pas, d'être légitime, n'est-ce pas, là d'où nous sommes avec eux. C'est pour ça que nous sommes field-based et on travaille sur le terrain chaque jour avec eux, on vit avec eux et on a réussi à inverser un peu la tendance. Et je pense qu'à ce jour, on travaille sur l'accès aux ressources, n'est-ce pas, du côté avec les exploitants forestiers et le gouvernement du Cameroun pour voir comment est-ce qu'ils peuvent avoir davantage accès aux ressources.
Et le gouvernement du Cameroun, justement, est-ce que vous avez des incitations, un accompagnement politique privilégié ou est-ce que ça n'existe pas et tout passe par le monde des ONG ?
Il faut dire qu'au Cameroun, du point de vue institutionnel, tout est sur place. Mais maintenant, il faut faire marcher, n'est-ce pas, toutes ces lois, tous ces encadrements qui sont prévus. Et on travaille en grande collaboration, n'est-ce pas, avec le gouvernement pour se rassurer, le ministère en charge des forêts, pour se rassurer que leur part de contribution peut être là et qu'on pousse. Il faut aussi penser que nous sommes en train de provoquer, n'est-ce pas, les communautés, de susciter leur intégration, leur implication, de manière à ce que la plus d'implication des communautés associées à ce que le gouvernement peut apporter et les ONG internationales ont réussi, n'est-ce pas, à construire quelque chose qui est différent, nouveau, innovant et qui permet aux communautés de s'approprier mieux, n'est-ce pas, le développement dans leur localité. Il y a tout ce qui est autour de la valorisation des ressources, parce que c'est ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Nous avons le moabi, nous avons les amandes de moabi qui ont toujours été utilisées par les communautés. Bon, l'exploitation forestière a rasé une bonne partie. Ce qui reste, non seulement il faut qu'elle replante, mais aussi il faut qu'elle gagne. en valorisant, en produisant, en transformant les amandes en huile, en lait de toilette, en savon, il y a la valeur ajoutée qui est là. Et ça permet que, quand on demande à une maman, n'est-ce pas, qui travaille pour la valorisation des produits forestiers, donc d'aller reboiser, d'aller replanter un arbre, elle le fait très vite. Parce qu'elle sait que, non seulement ça contribue pour son économie, mais aussi les générations futures, n'est-ce pas, vont en profiter.
Merci beaucoup Manfred Aimé d'avoir été parmi nous et de nous avoir parlé de Tropical Forest. Maude Lelièvre, on a entendu ici qu'il existait une alternative justement à l'exploitation et la confrontation avec les grands singes pour les populations locales. Mais est-ce qu'il existe des régions dans lesquelles il y a peu d'alternatives, où on a du mal à développer des activités pour remplacer les mauvaises pratiques environnementales, disons, et donc où la conservation de la nature est de facto reléguée au second plan?
Non, je pense pas. Je pense qu'il faut, par contre, il faut des moyens gagnants. C'est-à-dire qu'il faut à la fois apporter de l'aide, que cette aide soit là dans la continuité, qu'il faut assurer une commercialisation des produits. Il faut assurer une filière, hein, c'est ce qu'on fait avec le PPI. Il faut que cela contribue à améliorer les revenus de la population locale pour qu'elle puisse s'impliquer. Moi, l'exemple que vous venez d'entendre, on en a d'autres dans d'autres territoires où c'était quand même pas facile. Je pense à Lambéréné, par exemple, au Gabon, où on avait des femmes qui consommaient de la viande de brousse. On passait sur les routes, il y avait de la viande de brousse accrochée un peu partout pour les gens qui voulaient s'arrêter en acheter. On a convaincu les femmes avec le programme de pouvoir ouvrir un restaurant une coopérative de femmes, un restaurant communautaire pour promouvoir une autre consommation et la population a changé de consommation. Donc je pense pas qu'il y ait de territoire où c'est pas possible. Il faut juste travailler à une conversion, à une incitation vers une conversion de l'agriculture. Ça fait d'ailleurs partie des objectifs d'Aichi, les objectifs qui avaient été préparés et évoqués à la conférence à la COP biodiversité de Nagoya il y a 10 ans et qui aujourd'hui sont toujours vrais.
Alors, on va partir en RDC. On a un auditeur qui nous appelle. C'est Michel. Bonjour, Michel.
Bonjour, Amélie. Bonjour, chers voisins et voisines.
Michel, vous avez quelque chose à nous dire à propos, justement, de cette protection de la biodiversité qui est parfois mise à mal par rapport au développement économique de certaines régions. Et ça se passe chez vous, au Kisangani. Pardon, je vais réussir. Au Kisangani, racontez-nous.
Ah d'accord. Et en fait, l'environnement, c'est un domaine et la protection de la biodiversité aussi. Alors que dans mon milieu à Kisangani, en RDC, tout le ménage ou presque tout consomme de la braise. Alors que comme tout le monde consomme de la braise, cette situation fait en sorte que la forêt subisse une très forte pression, ce qui accélère une disparition ou la perte de la biodiversité. Malheureusement, il est très difficile, voire impossible de convaincre la population que la biodiversité est en train d'être disparue. Maintenant, pour aider cette population qui est sensible à cette question, nous procédons à les convaincre sur l'aspect économique. En fait, nous produisons des foyers améliorés qui sont des petits fourneaux qui sont construits à base de l'argile pour utiliser la braise tout comme le foyer traditionnel, mais dans le but de réduire la quantité de la braise à utiliser et ainsi réduire la déforestation.
Est-ce que ça a contribué à convaincre un petit peu la population, cette solution que vous avez trouvée?
Bien. Ça a convaincu la population, mais la population utilise ces moyens non sur base de protection de la diversité ou de l'environnement, mais il utilise sur base l'aspect économique. Le fait que c'est une population très pauvre, n'ayant pas assez de moyens pour se procurer de braise, ils ont trouvé qu'utiliser leur foyer amélioré, ça peut réduire leur dépasse, la fréquence sur le poids des vaches et ainsi. Le fait qu'ils ont accepté ce moyen, voilà que ça réussit quand même un peu.
Merci beaucoup, Michel, pour votre témoignage. Maude Lelièvre, avant de terminer, je vais vous en lire un autre des témoignages qu'on a reçus sur Facebook. Il s'agit de Janvier, qui vient de RDC. Il travaille au Parc national des Virunga, qui a été créé en 1925 dans l'est de la République démocratique du Congo, et qui nous dit « Ici, la population, les milices et les groupes armés viennent voler du bois car la vie est chère et difficile. » Les animaux sont aussi traqués et tués. On retrouve des éléphants, des hippopotames et des buffles tués. Nous travaillons jour et nuit pour que tout le monde s'implique à protéger notre patrimoine et notre biodiversité. Très rapidement, ce sera vraiment la conclusion. Comment on fait quand on est dans ce cas de figure où la situation sur place et la sécurité de ces espaces est clairement compromise?
Il faut espérer avoir de l'aide extérieure. C'est le cas du territoire que vous citez, notamment avec l'ONG internationale Noé Conservation, qui est au plus près des populations depuis des années. On ne peut pas laisser les gens seuls face à la fois au trafic qui représente, aux côtés du trafic d'êtres humains ou au trafic d'armes, un revenu important, notamment pour les groupes terroristes. Donc il faut absolument de l'aide extérieure, il faut de l'accompagnement, il faut de l'accompagnement dans la durée.
Merci Maud Lelièvre d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes présidente du comité français de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'émission touche à sa fin, mais avant de se quitter et de retrouver un nouveau journal, on écoute Les voix ensorcelantes de Bonbon Vaudou, en français et en créole, Le pied dans la tombe sur RFI.
Si je croque avant toi le fruit rempli d'épines,
si je pars avant toi,
s'il gobe le silence, l'amidon de mes mots,
si je pars avant toi,
je les remonterai dans la tige glycine.
Si je pars avant toi,
je ferai remonter tous mes refrains idiots pour que tu danses. Tu danses. Tu danses.
Si un jour moi la mort.
De voisins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Juliette Brault, Delphine de Dianous, Raphaël Lazizi, Romain Dubrac d'avoir préparé et réalisé cette émission. Demain, mardi, nous nous pencherons sur le marché du cheveu afro. Perruques, extensions, tissages sont-ils toujours autant à la mode et comment les industriels du secteur s'adaptent-ils au retour du cheveu naturel? N'hésitez pas à nous appeler dès maintenant ou à nous envoyer vos messages si vous avez par exemple changé vos habitudes de coiffure pour des raisons économiques ou si vous travaillez dans le domaine du cheveu. Le numéro WhatsApp, c'est le 33 7 64 45 51 41. Et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter cette émission sur RFI.fr. À demain, mardi, même heure. RFI.